Cours de philosophie sous le gouvernement divin par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 21 février 2003.
Il y a quelques questions. Dans quelle mesure le gouvernement divin en philosophie est un gouvernement miséricordieux? N'est-ce pas réservé au mode chrétien? Je crois que le philosophe peut découvrir que Dieu est Père par la création de l'âme. La création de l'âme implique une finalité personnelle. Et seul le philosophe peut l'atteindre. Même il doit l'atteindre. Dès qu'il comprend ce qu'est l'intelligence, il comprend que la finalité ne peut pas être dans les réalités de ce monde, mais doit être une réalité divine. L'homme est créé pour Dieu et non pas pour le monde. Donc, puisqu'il est créé pour Dieu, il a besoin d'un secours divin qui n'est pas surnaturel, puisque celui-là ne peut pas le découvrir philosophiquement, mais il a besoin d'un secours naturel en vue d'une fin qui n'est pas politique. Pour la politique, il n'a pas besoin du secours de Dieu. Ça se voit trop. Ça se voit trop bien. Il peut, avec son intelligence, découvrir l'exigence de la prudence. Et la prudence politique est ce qui permet de gouverner. Il a sans doute besoin d'un secours divin pour respecter la finalité personnelle de chacun. Et c'est comme un secours négatif, c'est-à-dire un secours qui réclame de lui d'accepter que l'homme a une finalité personnelle. Ça, c'est naturel. Et au fond, les hommes de gouvernement n'aiment pas beaucoup d'accepter ce qui leur échappe. La famille et la contemplation. La famille leur échappe. Voyez, ils ont le désir de mesurer et politique, d'une façon politique, le nombre des enfants. À ça, ils n'ont pas le droit. Le point de vue politique n'a pas le droit de mesurer le nombre des enfants, comme en Chine. Peuvent souhaiter montrer, mais ils ne peuvent pas. Vous voyez, la famille a quelque chose qui échappe à l'État, puisque la famille est substantielle. Elle est pour la procréation et pour l'amour d'amitié. Alors l'amour d'amitié touche une première finalité. L'amour d'amitié est nécessaire pour le mariage, pour l'éducation des enfants, la procréation. Alors, sans doute qu'il faut un secours divin qui, pour le respect de cela, l'homme politique instinctivement, veut le commandement sur tout. Oui. Et ça, alors, je dirais, c'est ce qu'on voit couramment. Le point de vue politique fait miroiter le point de vue du bien commun et on considère que le bien commun est supérieur au bien personnel. Aristote dit que le bien commun est supérieur au bien individuel, mais pas au bien personnel. Bien commun est supérieur au bien individuel, c'est sûr. Alors, très facilement, on glisse de ce bien commun, ou bien on exalte ce bien commun comme s'il était le bien total. Oui, donc l'intervention de Dieu doit être pour maintenir l'homme politique dans l'humilité et ne pas vouloir gouverner sur tout l'homme. Or, la finalité de l'homme échappe à l'homme politique, la finalité propre de l'homme. Finalité d'amitié, finalité de contemplation. Les deux finalités de l'homme échappent. Le bien commun est inférieur à l'amitié et le bien commun est inférieur à la contemplation. Or, dans l'amitié entre l'homme et la femme, dans le mariage, est impliqué le foyer. Le foyer a des droits qui ne regardent pas l'État. Ces droits sont commandés par l'amitié de l'homme et de la femme, du mari et de l'épouse. Et c'est toujours cette amitié des deux qui fait qui commande le gouvernement propre du foyer, et ceci échappe à l'État. L'État aura toujours désir, ça on le voit sous toutes les formes de gouvernement, le désir de dépasser. Alors, dans quelle mesure le gouvernement divin, pour la philosophie, est un gouvernement miséricordieux ? Dans la mesure où vous regardez la finalité de l'homme, le gouvernement divin peut être avoir une note miséricordieuse, une note paternelle. Je crois qu'un gouvernement paternel est toujours miséricordieux. Mais évidemment, au point de vue chrétien, ce mode chrétien, il faut faire attention, ce mode chrétien, au point de vue de Dieu, alors dépasse de beaucoup la nature et regarde la fin de la personne. Il est alors miséricordieux. Il est substantiellement miséricordieux. De l'autre côté, c'est un mode miséricordieux. Je crois que c'est là la grosse différence. Vis-à-vis de la nature, vous voyez, puisque la nature est déterminée. Comme la nature est déterminée, la miséricorde n'est pas, n'opère pas d'une façon substantielle. Elle n'opère que selon un mode. Et la miséricorde est toujours personnelle. Je ne fais pas miséricorde à la nature humaine. Or, dans le gouvernement divin, il y a tout ce point de vue de la nature et il y a la personne. Alors, dès que vous touchez au gouvernement personnel, la miséricorde apparaît. Et comme la personne est le dépassement de la nature, point de vue humain, et le gouvernement n'est pas substantiellement miséricordieux. Tandis qu'il l'est au point de vue chrétien. C'est ce qu'on peut dire. Vous voyez, Aristote, dans sa philosophie de politique, ne parle pas beaucoup de la miséricorde. Mais il respecte les finalités transcendantes de l'homme, qui n'est pas la finalité immanente. La personne transcende la communauté. Elle dépasse la communauté. Mais la personne est ce qui constitue l'amitié. Donc l'amitié de l'époux et de l'épouse transcende le point de vue politique. Le point de vue politique n'a pas le droit de régler l'amitié de l'époux et de l'épouse. Et donc, le nombre des enfants. Vous disiez que dans les siècles passés, le Moyen-Âge, la nature chez l'homme jouait un rôle beaucoup plus déterminant qu'actuellement. Dans une culture moins avancée, plus paysanne, la nature joue un rôle beaucoup plus grand que dans une culture beaucoup plus intellectuelle et souvent idéologique. Vous disiez que dans les siècles passés, la nature chez l'homme jouait un rôle beaucoup plus déterminant qu'actuellement. Et de ce fait, notre responsabilité est beaucoup plus forte qu'autrefois. C'est sûr. Et la plupart du temps, elle est trop forte. Les hommes ne sont pas assez éduqués moralement pour pouvoir porter leur responsabilité actuelle. Que voulez-vous dire par là ? Je veux dire par là, tout simplement, que nous vivons un monde qui est beaucoup plus artificiel, qui est beaucoup plus commandé par les résultats de l'homme, par le fait de gérer la fabrication. Vous voyez, tant que l'homme cultive un jardin, cultive un champ, bon, c'est très déterminé. Même les gains et les c'est déterminé. Tandis que lorsque le monde industriel gagne le monde paysan, le monde du fermier. Bon, ce que le marxisme voulait, cette transformation du monde paysan en un monde artificiel. Artificiel dans le sens art. Vous voyez, un monde que l'homme fabrique. L'industrie, c'est l'homme qui fabrique ça. L'industrie a encore un point de départ humain pour la matière, mais de plus en plus, il fabrique. On arrivera à se passer de blé, de la vigne, je ne crois pas, mais parce que je crois que difficilement on arrivera à remplacer le vin de qualité. Les dernières choses qu'on pourra falsifier, c'est le Bordeaux et le Bourgogne. Et par le fait même, aussi les liqueurs. Mais les liqueurs sont beaucoup plus déjà falsifiables. Alors, il restera la liqueur des Chartreux, qui ne brûlera pas. Mais je crois que le vin est la chose qui restera le plus. Tout le reste, on sera d'inventer et de falsifier. Ça commence à se faire, n'est-ce pas? De plus en plus, le paysan est dans un prix, dans une espèce d'unification globale. Et alors, quand cette unification se fera au nom du monde entier, ce sera impératif. Et le point de vue du travail proprement humain, facturé humain, sera de plus en plus commandé par une espèce de mondialisme où on sera saisi comme un citoyen du monde. Oui, alors le petit citoyen de tel endroit disparaîtra complètement. Alors, par le fait même que le point de vue de la nature est de plus en plus dépassé, de plus en plus le point de vue de la liberté de l'homme se développe. Il est beaucoup plus responsable de l'orientation. Et donc, il est libre. Alors, que voulez-vous dire par là? Est-ce que l'homme actuel, ne vivant plus beaucoup selon sa nature, est beaucoup plus libre? Oui. De choisir de développer sa personne, et qu'il faut l'aider à cela, c'est sûr. Il y a beaucoup plus de choix. Et donc, il y a une liberté beaucoup plus grande. Le point de vue de la personne s'est développé d'une façon très étonnante ces derniers siècles. Vous voyez, prenez pour les voyages. Ça joue énormément, les voyages, quand même, au point de vue industrie. Le siècle dernier a transformé le point de vue de l'avion, alors qu'au début du siècle précédent, c'était le début de l'avion. J'ai encore connu des personnes qui sont montées dans ces premiers essais d'avion. Et ils étaient épatés de voir comme ça se développait actuellement. Et c'est vrai, ça fait partie de la personne. Et comme les voyages sont beaucoup plus faciles, il y a par le fait même aussi des échanges. Et le côté propre de l'agriculteur, de la petite ferme, tout ça, disparaît. Et le petit agriculteur avec son champ, qui vivait avec une vache, un cheval, un âne, c'était à Châteauneuf, chez Marthe, c'était ça. C'est typiquement ça. La petite ferme, ça, un cheval, une vache, une brebis, un chèvre. Et on était heureux. Évidemment, un bonheur très humain, très naturel. C'était le petit fermier qui développait ses cultures, avec le sens très grand de la propriété. Aujourd'hui, il devient dépendant de tout un ensemble. Le fermier ne fait plus ce qu'il veut. Et non seulement pour la terre, mais pour l'élevage et tout ça, il ne fait plus ce qu'il veut. Il est dépendant de tout un ensemble. Alors, d'une certaine manière, la liberté diminue. C'est sûr, quand il était ce petit coin de terre, il le développait comme il le voulait. Il avait sa petite maison. Aujourd'hui, il est dépendant d'un ensemble. Il doit rendre, il y a des lois. Il doit être uniquement celui qui exploite ça selon les exigences qui lui sont demandées. Donc il y a beaucoup moins de liberté, d'une certaine manière, parce que tout est commandé par des lois. Les lois existent dès qu'on dépasse la famille. Il n'y a pas de loi familiale. La loi, c'est le dépassement de la famille, le point de vue politique. Et le point de vue politique devenant de plus en plus international et mondial, les lois grandiront de plus en plus. Et de plus en plus, par le fait même, la liberté diminue. Mais il y a une liberté fondamentale plus grande. Vous voyez, quand il y avait la petite ferme, j'ai encore connu ça, il y avait le petit fermier qui, se mariant, pensait à celui qui reprendrait la ferme. Il fallait nécessairement, on ne savait jamais s'il vivrait bien, donc il fallait... Le nombre de la famille était commandé par la ferme, le nombre des enfants. Donc, c'était très naturel. Aujourd'hui, il y a un choix foncier qui est beaucoup plus grand. D'une certaine manière, l'orientation, on quitte très vite sa petite maison. Mais on a encore connu des personnes qui avaient 80 ans, qui n'avaient jamais monté dans le train. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être pour l'avion, mais c'est rare. Et ça change tout, ça. Même le vol en avion change la perspective au point de vue de l'imagination. Je crois qu'il y a une relation entre certaines tendances artistiques et l'expérience qu'on a en avion. On voit les choses autrement. Avant, on n'avait pas cette expérience-là. Tandis qu'on a une expérience toute différente de regarder les choses en avion. Et ça, ça modifie la conférence, ça modifie l'imagination artistique. Il y a sûrement certaines tendances de l'art qui se sont développées et qui dépendent de ces expériences nouvelles. Donc, d'une certaine manière, la liberté a un champ d'action beaucoup plus vaste, et d'autre part, la liberté à l'égard des choses immédiates est beaucoup plus restreinte. C'est très curieux de voir la modification du champ de la liberté. Et ça touche alors directement le développement de la personne. Le développement de la personne est dépendant de vos choix libres. Or, il fait une modification. Je crois, au point de vue philosophique, on peut dire que Dieu intervient dans son gouvernement sur l'homme chaque fois que l'homme doit déterminer par rapport à sa finalité. Ça bouge pas. C'est sûr. Dieu laisse l'homme libre. Et pensez toujours à ce qu'on voit dans l'Écriture. C'est quand l'homme a commencé à construire une pierre au-dessus d'autres pierres, et la diversité des langues est venue à partir de là, pour que l'homme n'atteigne pas le ciel. Donc, on dénote là la tentation de l'homme par le pouvoir, et il veut un pouvoir toujours plus grand, un pouvoir non seulement sur la technique et l'architecture. Vous voyez, l'architecture se modifie en raison de la technique qui est toujours plus poussée. On le voit bien, on assiste à ça. Ici, on voit une construction qui se fait tout à fait différemment que la construction de l'homme qui construit sa maison. Ça, l'homme ne peut pas faire, il faut la grue. Sans la grue, il ne faut rien faire. Et il faut toujours penser à cette cathédrale où il y a sur le clocher en haut des bœufs. À la place de la grue, il y avait les bœufs. Toute la différence entre le bœuf qui peut nous aider à transporter des pièces très lourdes et puis la grue. Et par le fait même, la modification qu'il y a d'utiliser un animal et d'utiliser la grue. Tant que vous aviez le contact avec l'animal, vous restiez dans un contact vital. Quand vous avez la grue, vous n'avez plus le contact vital. C'est purement technique. Et tout ça modifie forcément complètement le tempérament, le point de vue de la personne. Le mondialisme ne peut se faire que par la technique. Et les animaux gardent leur espèce. C'est un animal, ça ne le trouble pas, la grue. Il continue d'être vache en face d'une grue. Il continue d'être taureau en face d'une grue. C'est une fourmi en face de la grue. Mais l'homme est modifié. Tandis que l'animal, c'est pour ça que ça nous intéresse tous d'aller voir des animaux particuliers, même s'il n'y en a plus beaucoup, parce que ça nous rappelle l'espèce humaine, la variété. Un jardin zoologique, ça nous intéresse toujours beaucoup, de voir toute la variété de la nature humaine. On n'a pas le contact toujours immédiat. Tandis que là, c'est le rappel de la nature. Et le rappel de la nature, c'est quand même quelque chose de très important. Parce que ce rappel de la nature disparaît dans le faturé. Dans le faturé actuel, la fabrication actuelle, la nature est très loin. Parce que le faturé augmente. On a des outils. À la place d'avoir tout simplement une scie, ou d'avoir tout simplement une, je ne sais pas, un marteau. Donc il y a un renversement complet. Alors, au point de vue du gouvernement divin, ça joue. Lorsque l'outil intervient d'une façon, Dieu se tait. Ah, Dieu n'intervient pas pour la grue. Il n'intervient pas. Tandis que quand il s'agissait des outils qui étaient au service de l'homme, Dieu pouvait intervenir. Vous voyez, l'homme, de plus en plus, dans son développement, et c'est le danger qu'il y a, fait que Dieu s'écarte. Dieu intervient de moins en moins. Parce que tout est pris par la technique. Dieu intervenait immédiatement par la nature. Dieu n'intervient plus par la technique. Là, ce serait très intéressant de voir la différence. Par la nature, Dieu respecte la nature et n'intervenait pas personnellement directement. L'ordre du monde est un ordre naturel, et cet ordre naturel, Dieu dans son gouvernement le respecte parce qu'il vient de lui. C'est un ordre de sagesse, et Dieu respecte cet ordre naturel. Et Dieu ne change pas beaucoup la loi de la nature. Aussi loin qu'on monte, on retrouve l'animal engendre un animal de même espèce. Alors, l'évolution, oui, je veux bien, mais elle est très fort imaginative. Vous savez bien. C'est une chose qui m'a... Parce que ça a coïncidé avec... Quand j'ai fait mes vœux, donc il y avait une possibilité d'aller voir telle ou telle personne. Il y a eu, à ce moment-là, une merveilleuse exposition sur l'évolution au Trocadéro. Une très belle exposition. On montrait... C'est vrai, c'était... Je ne me rappelle plus du nom... Et c'était un grand professeur qui terminait, qui était obligé de terminer sa carrière universitaire. Et alors avant ça, il a fait cette exposition où on montrait toute l'évolution en partant de l'animal aquatique. Et puis ça se terminait, c'était là l'astuce, par un miroir énorme où le Parisien se voyait. L'ultime évolution, c'était le petit Parisien qui se regardait. C'était très astucieux. C'était merveilleux. Alors on passait du poissons, des tares, aux Parisiens, le sommet des religions. Et il dit, c'était extraordinaire comme intelligence fabricatrice. Mais on ne voyait rien. Le brave Parisien, le brave qui venait voir cette révolution, on dit c'est parfait. On ne voyait pas qu'il y avait des sauts extraordinaires qu'on les bouchait sans savoir comment ça on passait de l'un à l'autre. Ça ne faisait pas aucune importance. L'évolution. Alors, c'est très vrai, il y a cette évolution animal qui se fait, qui s'est produit. Il y a des espèces qui disparaissent chaque année. Je ne sais pas le nombre, on me l'a dit, mais c'est fabuleux. On ne croirait jamais que tant d'espèces disparaissent chaque année. Espèces d'animaux. On va vers une simplification toujours plus grande. À cause de la technique, parce que l'homme a de moins en moins de respect vis-à-vis de la nature. De plus en plus, il s'en sert, il la modifie, il la transforme et il donne des produits artificiels. Et on n'est plus en contact direct avec la nature. Vous avez le jus de pomme, vous n'avez plus la pomme. Et pour tout, c'est comme ça. Alors, ça fait que le point de vue de la nature, ça c'est sûr, le point de vue de la nature disparaît de plus en plus. Je voyais l'autre jour quelqu'un qui me disait, par rapport à ses petits-enfants, m'a dit, mes enfants, je suis arrivé à les éduquer, ça n'a pas changé beaucoup, mais maintenant, mes petits-enfants, je suis obligé de faire grande attention, parce qu'ils ont une éducation totalement différente de ce qu'elle j'ai eu. Alors, il se demandait s'il ne fallait pas que lui retourne à l'école pour comprendre comment on éduquait ses petits-enfants, pour être encore le grand-père qui puisse éduquer. La nature disparaît. On est toujours en face de choses faites par l'homme, fabriquées par l'homme. Alors, il ne faut pas oublier la chose de... C'est Nietzsche qui dit ça. Hein. Quand je suis en face de l'océan, en face de la nature, je dis Dieu est grand. Quand je suis dans la ville, je dis l'homme est grand. Puisque tout est fabriqué par l'homme, tout est fait par l'homme, il y a la marque de l'homme. Dieu, quand il crée, ne met pas de marque. N'est-ce pas ? Il crée des espèces, l'homme met sa signature. Donc, il y a cette transformation de plus en plus grande de la nature qui disparaît. Alors, est-ce un progrès ? C'est un progrès si l'homme arrive à découvrir plus profondément sa fin, sa finalité. Si au contraire ce progrès le détourne de sa finalité, c'est un faux progrès. Le repère, c'est pas les moyens. Les moyens, on peut transformer très bien, mais c'est la finalité. Or, n'oublions jamais, et ça le philosophe est farouche là-dessus, il y a deux finalités pour l'homme. L'amitié et la contemplation. n'y a pas d'autre finalité. L'amitié, c'est toujours la même chose. Dieu intervient toujours sur l'homme quand il s'agit de son contact avec la finalité, le choix de l'ami. Dieu intervient sûrement pour le choix de l'ami. Dieu intervient pour le choix de la contemplation et de l'adoration. Parce qu'on touche la finalité. Mais lorsqu'il s'agit du choix des techniques et des moyens, Dieu n'intervient pas. Dieu laisse l'homme en lui rappelant « Sois prudent, n'oublie pas ta fidélité. Il ne faut pas que les moyens soient tellement forts, tellement puissants, qu'au fond, on vive pour augmenter, perfectionner les moyens. Et on met toute sa vie dans l'intérêt de ces moyens. Et à ce moment-là, l'homme oublie sa finalité et il est malheureux. Lorsqu'il est en pleine force, c'est-à-dire de 30 ans à 65 ans ou 70, il peut jouer avec les moyens, avec les techniques. Ça le satisfait. Mais après, il est écarté parce que le monde continue de rouler, de se développer plus vite que lui. Dès qu'il atteint 70 ans, il est à un rythme qui continue son rythme et le monde se change plus vite que lui. Parce qu'il est pris par la technique. Et alors, à ce moment-là, il commence à voir que peut-être il n'est pas fait pour la modification des moyens, la transformation des moyens. C'est très bien de transformer les moyens, ça aide beaucoup au point de vue politique, c'est très très bien prendre des brevets sur les moyens plus parfaits, qui reviennent à moins cher, c'est très utile. Mais mettre toute sa vie organisée, ordonnée à ça, ça ne finalise pas un homme. Et ça finalise encore moins une femme. Parce qu'un homme peut jouer plus longtemps qu'une femme. Oui, ça c'est un fait. Vous voyez des hommes qui ont été habitués de faire des calculs pour jouer un jeu très savant, mais un jeu. Le jeu, c'est quand il n'y a pas de finalité. Le jeu, c'est quand l'homme donne une finalité factice. Dans tous les jeux, il y a des finalités factices. Il n'y a pas une finalité naturelle. Alors l'homme joue et peut jouer assez longtemps. Tant que son intelligence est capable d'être uniquement à ce jeu. Et ça, c'est l'astuce, alors. C'est au point de vue chrétien, c'est l'astuce du démon, c'est de faire que l'homme de plus en plus est pris dans un jeu des moyens. Et si vous prenez une philosophie moderne, vous voyez que cette philosophie ne cherche plus la fin. C'est uniquement d'ordre mathématique. Donc, uniquement des relations. Et l'homme passe sa vie dans ses relations. Parce que le jeu, c'est ça. Pourquoi le jeu vous grise ? C'est parce qu'il est uniquement dans les relations. Il n'y a pas de finalité. Donc, d'une certaine manière, il est infini. C'est la façon dont l'homme se rattrape sur l'infini. C'est par les moyens, les relations. Les relations vont à l'infini. Tandis que la fin est quelque chose qui termine et qui montre que c'est la fin. Bon. Alors, vous voyez, c'est au fond assez complexe que le monde nouveau augmente mes responsabilités, augmente ma liberté, ça c'est sûr, et en même temps me lie davantage par des lois. Et donc l'un diminue ma liberté. Il y a les deux. On est à la fois saisi par des lois plus profondes et le choix de l'homme est plus grand. Le choix de l'homme est beaucoup plus grand à notre époque qu'au Moyen-Âge. Dernière question. Il est vrai que par l'imaginaire, le rôle du corps dans le gouvernement de Dieu est négatif. Attention, le rôle du corps, c'est la nature. Donc, il dépend d'un ordre de sagesse. Il dépend de causes secondes. Et il est ordonné par les causes secondes. Il n'est pas directement sous mon pouvoir et sous ma liberté. Si Dieu a voulu l'unité substantielle d'âme et de corps, le corps doit aussi avoir un rôle positif dans le gouvernement. Le corps a toujours un rôle relatif à l'âme dans le gouvernement de Dieu. Le corps humain n'est pas regardé pour lui-même. Et c'est ça qui est très important. Et philosophiquement, je peux le dire. Donc ce n'est pas du tout point de vue surnaturel. C'est au point de vue philosophique. Le corps est relatif à l'âme. Je me souviens, c'était un étudiant de Genève qui était venu à un séminaire à Fribourg sur Aristote et sur le De Anima d'Aristote. Il est sorti de là blême en me disant, mais Aristote dit que le corps n'est intelligible que par l'âme. Il dit oui, parce que le corps est en puissance à l'âme, il n'est pas intelligible par lui-même. Alors il me dit, mais alors, aujourd'hui, on veut comprendre le corps pour lui-même. Donc, on supprime l'intelligibilité possible qu'on aurait sur le corps, puisqu'on ne veut plus d'âme. Alors je dis, oui, c'est sûr. On va considérer l'âme, le corps humain, comme le corps d'un animal. Et le corps d'un animal a quand même une détermination, le corps vivant. Et la différence du cadavre et le corps animé. Le corps animé par l'âme est substantiellement différent que le cadavre. Et c'est la cause matérielle qu'on veut regarder pour elle-même. Donc on regarde le corps humain toujours comme un cadavre. Puisqu'on ne regarde pas l'âme, et que c'est l'âme qui détermine. qui est source immanente du corps. Alors, il y a peut-être quelque chose à préciser. Si Dieu a voulu l'unité substantielle d'âme et de corps, le corps doit aussi avoir un rôle positif dans ce gouvernement divin. Oui, un rôle positif parce qu'il est nature. Le corps est déterminé, je ne peux pas changer, le modifier. Il est nature. Il est ce qui s'impose. Et il est dépendant de l'âme. Dans la conquête de la fin. Donc un rôle positif. Le rôle positif est-ce subordonné à l'âme ou non subordonné? Positif. Positif n'est pas précis. Dans le rôle positif dans le gouvernement, il a nécessairement un rôle positif dans le gouvernement. Mon corps modifie toutes mes activités humaines. Toutes mes activités humaines, du moins activités humaines comme activités humaines, passent par le corps. Et donc le modifie, mais pas le détermine. Le corps ne détermine pas, puisqu'il est cause matérielle. Il dispose. Et très souvent, la causalité dispositive est prise par le savant comme une détermination. On confond le point de vue de la disposition. Alors, le corps dispose. Puis le point de vue de la détermination. Oui. La disposition attend la forme substantielle. La forme substantielle vient de l'âme. Oui. En supprimant le regard sur l'âme, on supprime l'intelligence qu'on peut avoir du corps. Donc, une médecine qui ne veut regarder que, du moins, une médecine dépendance, trop dépendante de la science, de ce qui veut être science, du corps, sans regarder du tout l'âme, risque nécessairement d'oublier le principal. Alors, le corps doit avoir un rôle positif dans le gouvernement, dans la conquête de la fin. Positif, c'est-à-dire, je dirais, de l'ordre de la disposition, de l'ordre accidentel, mais un accident substantiel. Mais c'est pas positif dans le sens de la détermination. Cela n'est que du côté de la disposition, exactement. Dans l'humilité. L'humilité, c'est du côté de l'âme, hein, c'est pas du côté du corps. C'est l'âme qui... Et le point de vue dispositif, c'est le point de vue de ce qu'est le corps par rapport à l'âme. Mon corps dispose, mais ne détermine pas. Ou bien le corps, par exemple malade, peut-il être considéré philosophiquement un moyen pour croître dans la recherche de la vérité ? Dans la conquête de la fin. Oui, un corps malade, par exemple, on s'aperçoit d'une maladie héréditaire qui va faire que mon corps ne peut pas accompagner mon âme dans ses désirs. dans son désir de travailler, dans son désir d'acquérir quelque chose particulièrement important. C'est très vrai que le corps malade empêche de se donner à fond à son travail. Et c'est négatif, hein. C'est le poids de la causalité matérielle qui arrête négativement. Je ne peux travailler que, par exemple, 3 heures par jour. Il y a des personnes comme ça. Je ne peux travailler qu'un tout petit moment, 3 heures, 4 heures. Alors que, normalement, je dois pouvoir travailler plus. Donc, peut-il être considéré philosophiquement un moyen pour croître dans la recherche de la vérité? Oui, parce que je sais que dans la recherche de la vérité, mon corps intervient moins. Je peux avoir un corps qui soit extrêmement, qui me limite énormément dans une conquête et un travail qui est laborieux, où mon corps est là pour soutenir l'âme, tandis que dans un effort de travail philosophique ou scientifique, mais surtout philosophique, le corps intervient moins. Puisque en métaphysique, je saisis les ce qui est au-delà du corps. Et mon intelligence a cette liberté de pouvoir se développer d'une façon intellectuelle, avec une liberté beaucoup plus grande par rapport au corps. C'est pour ça que quelqu'un qui a une fragilité physique, substantielle, très forte, il faut, si on peut, l'orienter vers quelque chose de très spirituel, humainement. Parce que humainement, point de vue spirituel, il pourra approfondir très fort et aller très loin. C'est ce qu'on voit chrétiennement. On voit chrétiennement des personnes qui sont très handicapées, très très profondément handicapées, et qui spirituellement ont vraiment une attitude intérieure qui est très belle, très surnaturelle, très divine. Et alors, ils sont beaucoup plus proches de leur fin, connaître Dieu, que des gens qui sont dans l'activité et qui n'y pensent pas du tout. Au dernier, à Genève, il y avait cette petite, cette jeune fille qui a, c'est déjà il y a 4 ans je crois, où elle avait eu un accident terrible, un arrêt, coupure complète, immobilisée, et elle est venue au dernier, dernière réunion à Genève. Elle a montré comment elle pouvait surnaturellement et humainement développer toute une vie intérieure étonnante. C'était très très beau. Et même, elle ne pouvait plus parler. Hein. Moi, j'ai vu quand l'accident est arrivé, elle ne pouvait plus parler du tout. Et là, elle recommençait à parler d'une façon assez difficile. On voyait très bien qu'elle parlait avec un effort, mais elle pouvait quand même s'exprimer. Et elle montrait que ce choc qu'elle avait eu avait été pour elle une espèce d'orientation très grande au point spirituel. Alors là, ça montre bien que l'âme domine le corps. Et quand il y a un obstacle, l'âme trouve encore la possibilité, surtout si on est chrétien, je crois, d'avoir un développement contemplatif.